C'est l'heure de la radio.
Radio Campus. 88.3.
Alors c'est la fin.
Non. C'est le commencement. Le monde ne sera plus jamais.
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bienvenue dans la science infuse, il est 14h sur Radio Campus Orléans. Vous nous écoutez en FM sur le 88.3, en radio numérique terrestre et également sur orléans.radiocampus.org, sur lequel site internet vous pouvez évidemment retrouver tous les podcasts de ces émissions de la science infuse. Aujourd'hui on est le lundi 21 octobre, ça s'est passé un 21 octobre en 2001. Claudie Aigneret, ingénieure de bord numéro 1 dans la station spatiale internationale, est la première française et la première européenne à monter à bord, et elle réalise un programme expérimental dans les domaines de l'observation de la Terre, de l'étude de l'ionosphère, des sciences de la vie ainsi que de la science de la matière. Mais aujourd'hui on va parler de mathématiques. Bonjour Marion.
Hello.
Et tu accueilles notre invitée d'aujourd'hui.
Et oui, donc nous sommes avec Caroline Rougerie, professeure de maths au lycée. Elle va nous présenter son association Maths en Jean. Donc, est-ce qu'on peut porter autre chose qu'un jean pour faire des maths?
Bonjour. Alors, oui, même si j'ai un jean, c'est assez souvent d'ailleurs. Oui, on peut porter autre chose qu'un jean. Mais le jean, il y a aussi ce côté de décontraction, faire un peu de maths autrement. C'est un des slogans de l'association. Vivre les maths, faire vivre les maths et les vivre autrement. Donc, je te présente l'association.
Oui.
Alors, c'est un acronyme. Alors, j'ai révisé. C'est D'ailleurs, je ne suis pas sûre de le retrouver, d'ailleurs. C'est tellement long.
J'arrive pour voler à la rescousse. Vas-y. Dans un instant, le temps que je clique dans le lien qui est sur le lien du site internet. Ça prend un tout peu... J'ai une redirection de page. C'est toujours quand on veut... Quand on veut avoir une information rapidement.
Tout à l'heure.
J'ai une anti-sèche. Parce que celui-là, je l'ai pas.
Allez. Alors, ah, c'est bon, je l'ai. On est méthode d'apprentissage des théories mathématiques en jumelant les établissements pour une approche nouvelle du savoir. En quoi elle est nouvelle, cette approche?
Alors ça, c'est pas la plus facile des questions.
Eh bien justement, commençons par le plus compliqué.
Tu commences par une dure. Eh bien parce qu'on va vraiment pas faire des maths comme d'habitude dans un collège ou un lycée, c'est pas du tout du descendant, c'est pas toujours du descendant non plus. Mais l'idée c'est de faire vivre une année de petits chercheurs à nos élèves, à des élèves volontaires qui travaillent en atelier. Donc ça c'est ce qu'on va dire, qui est assez innovant, même si comme Radio Campus, on a plus de 30 ans.
Et oui, ah, et tu as bien révisé. Tu sais quoi,
bah, on est plus vieux.
Je te posais la question tout à l'heure, justement, la question que je pose en ce moment à tous les invités qui traversent les studios, les micros de Radio Campus. On se la réservera pour la fin de l'interview, la fin de l'émission, si tu veux bien. Alors, tu disais, on change l'approche par rapport à habituellement. Elle est comment l'approche? Les mathématiques, ça serait comment? C'est quoi le cliché qui colle à la peau des mathématiques?
C'est encore malgré tout un peu une matière de sélection pour nos élèves. Et puis c'est peut-être une matière, c'est vieux, c'est pas dans pour je pense que pour beaucoup c'est pas quelque chose de vivant les maths. Alors que nos chercheurs inventent encore tous les jours des nouveaux théorèmes et recherchent les prochains.
Alors la sélection c'est sélectif, hein, c'est-à-dire.
La matière reste une matière de sélection un petit peu.
C'est-à-dire ?
On va avoir du mal à lâcher les maths, parents comme enfants, dans l'idée « je vais me fermer des portes pour le supérieur », par exemple. Donc il y a encore toujours cette image-là.
Ah oui, puis, les mathématiques permettent d'ouvrir les portes pour l'enseignement supérieur, ça fait bonne figure de faire des mathématiques, c'est ça ?
Oui, il la faut encore pour beaucoup de cursus. Par exemple, en sciences humaines, etc.
Du coup, c'est une association dédiée aux jeunes.
Ouais.
Quelle est la stratégie pour intéresser justement ces jeunes aux mathématiques?
Alors,
qu'est-ce que vous proposez en fait?
On leur propose donc des ateliers Mathangie. Donc c'est un chercheur, des enseignants et des élèves volontaires qui travaillent toute l'année sur des petits sujets de recherche que leur ont concocté enseignants et chercheurs, qui sont à leur portée, hein, on vise ça. C'est un travail très riche pour nous, enseignants, et je pense que pour les chercheurs aussi. Et puis donc après, ils travaillent en petits groupes, à raison d'une heure par semaine à peu près, sur ces sujets, souvent un petit peu ludiques. Et puis, on leur fait vivre la vie d'un mini-labo de maths. C'est-à-dire que pendant l'année, ils vont travailler ensemble. On organisera des séminaires où ils vont venir présenter leur recherche, le point de leur, où ils en sont aux chercheurs. Éventuellement, quand on a pu faire un jumelage, le J de Mathangine, c'est échanger avec l'autre atelier, les élèves de l'autre atelier, pour savoir où ils en sont et avancer mutuellement. Et puis, le grand moment d'une année Mathangine pour tout le monde, c'est le congrès. Où là, ils viennent présenter le fruit de leur recherche, abouti ou non abouti. Et puis, ils ont appris que finalement, ne pas arriver jusqu'au bout, bah, c'était déjà un super chemin, qu'important, c'était le chemin. Ils présentent en amphi devant tout le monde, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose que moi j'aurais fait pas plus souvent qu'eux dans ma vie, aller présenter en amphi devant tout le monde leurs travaux. Alors ils ont une trouille terrible quand ils commencent, mais ils lâchent plus le micro après.
Est-ce qu'on peut avoir une idée de recherche à peu près?
Alors,
une idée actuellement.
Eh ben, on a travaillé par exemple une année sur le jeu du qui-est. Tu connais le jeu du qui-est?
Oui.
Avec les petits bonhommes là. Et comme je suis un peu facétieuse, je leur avais dit oui, d'accord, c'est bien, mais maintenant je vais avoir le droit de vous mentir une fois. Et à vous d'élaborer des stratégies pour arriver malgré tout à repérer mon mensonge et à le corriger. Donc derrière ça, il y a des maths de grand, les maths des correcteurs d'erreurs, des codes correcteurs d'erreurs qu'ils ont touché du doigt, même si la théorie elle est tout à fait inaccessible pour eux et en grande partie pour moi aussi, mais on avait fait juste ce qu'il nous fallait. Voilà, par exemple.
Ça a l'air intéressant, du coup.
Alors, c'est uniquement à destination des lycéens et des lycéennes?
Non, lycéens, collégiens.
Collégiens également.
Il y a quelques tentatives dans des écoles, parfois, ouais. Ou dans le supérieur.
Ou dans le supérieur. Ouais. Il y a des interactions entre ces différents publics?
Avec les jumelages, il y a des jumelages collège-lycée, ouais. Par exemple.
Et justement, est-ce que ça permet peut-être de coopter un petit peu plus? Les collégiens et collégiennes se sentent un peu plus accompagnés, arrivent à se projeter aussi dans leur futur proche en voyant d'autres lycéens et lycéennes. Qu'est-ce que ça a comme impact positif?
Alors, ça leur donne une énorme confiance en eux. Puis tu parles d'échanger avec les lycéens, mais c'est aussi avec nous, enseignants. C'est des occasions où le tutoiement leur échappe parfois quand on travaille.
Oui.
Ça dit quelque chose.
Il y a une plus grande proximité.
Oui. C'est-à-dire que là, pour le coup, certaines fois, on est au même point qu'eux sur les recherches. On ne sait pas où on va.
Et puis
non plus.
Il n'y a plus le cadre scolaire en plus.
Oui, c'est ça. On abolit quelque part la frontière entre le professeur sachant ultime qui sait absolument tout.
Ah oui.
Et là, l'élève devient finalement également acteur et actrice de cette recherche-là.
Ce qui est déstabilisant pour beaucoup d'enseignants, d'ailleurs.
Et alors, comment ça se passe? Il y a un accompagnement pour les enseignants?
Pour le vendredi soir à l'apéro, tu veux dire, ou... Non, c'est pas ça.
Oui, pourquoi pas. En jean, l'apéritif. En jean, en jean.
Non, l'accompagnement, c'est pour ça que je disais les enseignants. On essaye d'être une équipe. C'est quelque chose de très riche. Mmh. C'est des échanges très riches que j'ai avec les collègues qui le font avec moi, que j'ai bien moins facilement avec d'autres. Des fois, on creuse des sujets, on cherche comme les élèves. Hein.
Et est-ce qu'il y a que les mathématiques comme recherche ou il y a d'autres matières scientifiques qu'on peut retrouver?
Alors, pour Mathangine, c'est essentiellement des maths. Okay. Il peut y avoir des sujets qui se rapportent un peu à de la physique. Cette année, on fait des surplombs de Kaplan, par exemple, pour savoir quand est-ce qu'il va basculer notre tas de Kaplan. Donc, il y a un peu de physique, mais... Okay. Les maths prennent vite le dessus.
Après, en physique, il y a les mathématiques déjà,
ah,
il
oui.
me semble.
Alors, il y a plein d'autres... Il y a des concours, beaucoup. Concours, c'est génial, où il y a plus de physique et où les maths ne sont pas beaucoup présentes. Mais ma tante Jean, j'en profite, il n'y a pas cet esprit concours. Quand on va en congrès, on présente aux autres, on écoute les présentations des autres, mais il n'y a pas du tout de classement. Et ça, c'est souvent une question que j'ai en rentrant du congrès. Alors, ça s'est bien passé, Caroline? Et alors, vous avez fini combien? Ben non, on n'a pas fini.
On est arrivé à, une,
on est arrivé,
à un objectif.
On a été applaudis comme les autres.
Alors, pourquoi c'est important, justement, comment ça s'inscrit, cette coopération plutôt que cette concurrence?
Ils ont tous les mêmes craintes et les mêmes objectifs.
C'est important de les mettre en coopération plutôt qu'en concurrence. Je reformule la question.
En tout cas, c'est mon approche. Moi, c'est quelque chose qui... C'est ma sensibilité, en tout cas.
Ouais.
Je pense que ça apporte. Alors, les sujets de recherche les poussent déjà un petit peu dans leur retranchement, à surpasser un petit peu. Il n'y a pas besoin de la compétition pour ça. Pas là.
On arrive à prendre plaisir à faire des mathématiques, tout simplement.
Oui.
Le congrès annuel, il est ouvert au public? On peut venir
voir? Il
est ouvert au public. Ça se passe où?
Alors, cette année, ça devrait se passer à Angers pour le Grand Ouest.
À Angers,
parce que l'association a tellement grossi qu'il y a 30 ans, il n'y avait qu'un ou deux congrès. Et maintenant, il y en a une dizaine.
Oui. Partout en France?
On essaye de couvrir tout le territoire, oui. On l'a organisé à Orléans il y a deux ans, 2023. On était 400-450.
Est-ce qu'il n'y a que la France ou...
Il y en a quelques-uns à l'étranger.
Dans quel pays?
Il y a des ateliers aux États-Unis, au Luxembourg, en Italie. Je vais en oublier. Au Maroc, je crois. Je sais pas, après, je vais me rater après.
Alors ma tante Jean, c'est pas tout jeune, hein. Ça a quand même quelques années, une petite trentaine d'années,
c'est
35
ça.
ans, hein, si je dis pas de bêtises. Ça a commencé en 1989 et c'est d'abord une méthode.
Et oui, c'est le M de ma tante Jean d'ailleurs.
Justement, donc c'est toute cette méthode de nouvelles approches. Alors comment c'est né justement ma tante Jean en 1989?
Alors c'est né de... à Paris, dans le cerveau en pleine forme de Pierre Audin et Pierre Duché, entre autres, qui ont voulu me proposer autre chose, une autre approche des maths et faire vivre leur vie de laboratoire de maths à des élèves. Alors le côté jumelage qu'on a du mal à faire vivre, nous, en région Centre-Val-de-Loire, du fait de l'éloignement des établissements, était sans doute plus facile à installer à Paris. Donc on essaye de le créer chez nous, mais on a encore un peu de mal.
Et comment est-ce qu'on voit le paysage en 35 ans d'existence évoluer? Quel impact a eu finalement ma tante Jean sur ces jeunes esprits qui ont été formés? Et du coup, là, il y a presque deux générations, bientôt trois, voire même plus.
Alors, je les ai rejoints, moi, il y a une dizaine d'années. Donc, je ne vais pas pouvoir te parler des tout débuts de ma tante Jean. Mais il y a des bébés ma tante Jean qui sont, à leur tour, enseignants et chercheurs pour des ateliers ma tante Jean.
Il y a finalement une transmission intergénérationnelle qui s'opère.
Oui, avec des réseaux. On sait l'importance des réseaux.
Alors, où est-ce qu'on peut retrouver toute cette information de ma tante Jean? Il y a un site internet?
Il y a un site internet.
Ah là là, c'est matantjean.fr. Il y a un petit onglet aussi, participer. Alors, comment on peut participer? Si on n'est pas un public scolaire, comment on peut participer? Comment on peut contribuer?
Alors, on peut adhérer à l'association pour participer à sa manière. On peut aider les coordinations régionales quand on est... enseignants, profs ou même élèves. Hein. Voilà. Les élèves peuvent adhérer aussi, c'est une toute petite participation. On manque d'adhérents d'ailleurs. C'est un appel, c'est ça? Merci.
Ouais.
C'est gentil.
Et justement, allons-y. Faisons cet appel justement.
Et comme toute association, hein, on a un peu de mal à vivre. On passe une bonne partie de notre temps à chercher des subventions pour pouvoir aider des ateliers à venir sur les congrès parce que c'est, ça a un coût. C'est un hébergement, c'est des déplacements. Mmh. Et donc on soutient. L'idée de l'association, c'est vraiment que ce ne soit pas le côté financier qui empêche des groupes de venir sur les congrès. Donc on essaye de, en plus des finances dont on a besoin pour faire vivre au quotidien l'association, c'est une salariée à temps plein et un demi-temps plein, ma tante Jean, actuellement. Ça ne serait pas du luxe de pousser un peu plus loin, après c'est comme toujours, hein. Donc c'est le bénévolat beaucoup. Voilà, donc si, plus on aura d'adhérents et de bénévoles, plus facile sera la vie de l'association au quotidien.
Voilà.
Est-ce que vous avez des projets futurs pour ma tante Jean ?
Continuer à faire vivre l'association après agrandir, on se rend compte qu'on est aux limites de nos capacités actuellement. On ne peut pas faire beaucoup plus. On a retrouvé les effectifs avant Covid, puisque le Covid a quand même eu un gros coup, a mis un gros coup de frein. C'était 2020, à 15 jours, on devait organiser le congrès à Orléans et ça a capoté pour 15 jours. Tout était prêt, les amphis étaient réservés, les plannings étaient faits.
Et finalement, non.
Et finalement, fini.
On continue en musique dans la science infuse. Reste avec nous, Caroline. Appearances or lies, mais ce n'est pas le cas des mathématiques. Les mathématiques ne trompent pas. C'est un titre de Z sur Radio Campus Orléans dans la science infuse. On est ensemble jusqu'à 15h.
We live in a society where changing your appearance on the outside gives the illusion that you've changed on the inside. For a while, that's what I thought I needed. I colored my hair, tattooed my skin, but there was no meaning, 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 no meaning. I'd look in the mirror and see how much I've changed. But every day always remained the same. Just another messed up person without a reason to live. I wanted to be better but wasn't willing to dig. Beneath my pain and my suffering lied everything I was trying to hide. I changed my looks but still felt dead inside. I would scream at night, God, why am I still alive? And I try to convince myself that I didn't need help. But I realize that you have to believe in yourself before anyone else. Because it's not where you start. It's about what's in your heart. So now I look into your eyes because appearances are lies. And I know that's easier said than done. And when life gets hard, I'm trying to watch where I run. Because where I go is what I become. And I thought I was having fun, but now changing my appearance just seems so dumb. Message. At the end of your life, your words are all that you're left with. And I don't want the fame, I'm just trying to make a difference. Because when I needed someone there, no one even really cared. But I'm here for you.
And when life hands you struggles, we're gonna see it through. And I hope you build a better life. These words were hard to say, but it just felt right.
Parentses are lies de Z sur Radio Campus Orléans. On est ensemble jusqu'à 15h pour la science infuse avec notre invitée Caroline Rougerie, professeure, on le rappelle, au lycée Maurice Genevoix de mathématiques. Alors, juste avant qu'on commence cette prise d'antenne, je te posais la question, comment est-ce que je te présente ? C'est une question d'ailleurs que je pose à tous mes invités pour être sûr de ne pas mal prononcer le nom, d'être sûr de ne pas faire de bêtises sur justement comment présenter notre invité. Et tu me disais, je prétends être...
Je me fais passer pour une prof de maths.
Je me fais passer pour une prof de maths.
Et ça marche depuis... Ouf.
Alors pourquoi ? Parce que tu n'as aucun diplôme, mais tu ne l'as jamais dit ?
Non, je ne l'ai pas dit. Mais toi, tu m'as dit que ça ne passait pas à l'antenne, hein, notre émission.
Oh, bah si, on est en direct.
Oui.
Alors pourquoi je prétends être professeur de mathématiques ? Quand j'ai creusé un peu la question, tu me disais c'est parce que je fais souvent des blagues.
Oui, c'est ça. J'aime bien dédramatiser ma discipline. J'ai vraiment à cœur de faire aimer les maths avant de peut-être apporter un savoir académique, etc. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être ça qui fait que ça donne une... Je ne suis pas assez austère pour l'image que se font les gens, beaucoup de gens du prof de maths peut-être.
Et finalement pas assez austère, parce qu'il faudrait être austère pour être professeur de mathématiques, il faudrait justement taper sur les élèves avec une règle en bois.
Ah oui, mais on le dit pas.
Ah oui. Non. Bah non, faut pas que ça se sache de trop.
On a d'autres moyens de faire pression.
Il y a d'autres moyens de faire pression. Comment, en menaçant d'utiliser pi ou pi au carré ou une.
Oui, c'est ça. Oui, et de leur en parler des heures durant.
Ah là, c'est la pire chose.
Là, ils arrêtent là tout de suite.
Là, ça permet de les maintenir un petit peu en l'autre. Mais du coup, comment est-ce qu'on aborde du coup, ces sujets un peu plus complexes, justement, des équations assez compliquées comment est-ce que tu fais pour apporter ce genre de questions sur la table ? De manière ludique.
Tous les sujets s'y prêtent pas.
Hein. Ouais.
Il y en a quelques-uns et ma tante Jean m'a apporté ça. D'ailleurs, certaines introductions de notions un peu compliquées qu'on approche, que j'amène par des tours de magie, par exemple.
Des tours de magie.
Mathématiques.
Oui. Ah, il y a un chapeau, il y a un lapin qui sort.
Et bah, dans le chapeau, il y a des maths.
Il y a des maths.
Et donc, on leur explique le tour.
Et justement, est-ce que tu veux nous en faire un petit tour de passe-passe mathématique ou nous expliquer comment est-ce que tu le présentes ? J'imagine qu'il faut peut-être un tableau et un crayon et c'est pas très radiophonique, mais...
Oui, ça va être compliqué, la radio aussi.
Sur quel thème, par exemple?
Sur quel thème? Des petits jeux de cartes et sur le compter en base 2. Je l'ai fait il n'y a pas bien longtemps dans une école primaire en face de mon lycée.
Le binaire, par exemple, c'est ça, 0101. Oui, oui. Et alors?
Eh bien, on avait tourné ça avec des questions auxquelles le complice du mathématicien répondait par oui ou par non. Et le oui voulait dire 1, le non 0, et puis on retrouvait un nombre qu'on avait fait donner en secret par un des élèves, des écoliers.
Donc finalement, on cache en fait l'information dans un enrobage qui permet de faire passer la pilule.
Voilà, c'est ça, si tu veux.
Mais le fait de s'amuser avec les maths, est-ce que du coup, il y a une influence sur la note finale ou pas du tout au niveau des... Parce que comme vous êtes professeur en lycée, je me dis...
Alors, ma tante dit, il n'y a pas de note.
Oui, non, mais par rapport
après,
à votre métier principal...
Pour beaucoup d'élèves, ma tante Jean leur apporte cette confiance et être plus sûr de soi et puis se dire l'important, c'est de chercher. Si je me trompe, c'est pas grave, je recommence. Alors oui, ça doit avoir une incidence sur la note après, forcément. Et même sur leur vie future. J'ai des retours d'anciens et d'anciennes élèves qui le disent très très bien. Ça me sert encore dans ma vie pro.
Alors, tu ne devais pas être seul aujourd'hui, tu devais venir accompagné de Philippe Griot de l'université, il est enseignant-chercheur, c'est
mon
ça?
Mon complice dans l'atelier au lycée.
Donc voilà, le complice n'est pas là aujourd'hui.
Non, il n'a pas pu être là, malheureusement.
S'il était là, on aurait pu parler un petit peu justement du lien qu'il y a entre l'enseignement supérieur. On en parlait tout à l'heure assez brièvement. Comment vous travaillez ensemble?
Alors, on travaille ensemble, nous, déjà, en amont de l'atelier pour préparer des sujets qui soient accessibles et puis qui occupent nos élèves pendant toute l'année. Philippe vient au lycée rencontrer les élèves 3-4 fois dans l'année pour faire le point sur les recherches. Mmh. Là, on a fait notre première... il est venu une première fois et on a vu des élèves déjà très à l'aise. D'habitude, ça prend un peu plus de temps. Là, ils n'avaient pas beaucoup avancé, parce que c'était très tôt dans l'année. Ils ont quand même pris la parole pour présenter leurs travaux, se sont répartis la parole. On est très confiants sur notre groupe de cette année. Et ce qu'on a vu là, des fois, on le voit plus tard. Les élèves de notre groupe découvrent un lien avec le supérieur. Et ça fait tomber des barrières aussi. Alors, pour les profs également, mais... de façon encore plus marquée pour les élèves, qui, quand on les voit sur les congrès, échangent avec d'autres élèves, avec des enseignants et avec des chercheurs, mais vraiment comme si on se parlait tous les trois.
Il y avait un dernier point dont on voulait discuter, je ne l'ai plus en tête, quelqu'un s'en souvient?
Celle-là, elle est pas mal. Non.
Elle est pas mal, hein, cette question-là.
Ouais, non, surtout si on te répond non.
Bah, écoutez.
Qu'est-ce qu'on pouvait.
Ah, si ! Dans 30 ans, où est-ce qu'on en sera ? Mais oui, c'est la toute dernière question.
Ah oui, et puis moi, j'avais dit qu'on finissait après le congrès, qui était quand même déjà un moment.
Ah oui,
fort,
c'est vrai, le moment
par,
de.
Par des articles. Puisqu'on disait que c'était la vie d'un petit laboratoire. L'aboutissement. Alors, il y a le congrès qui est un énorme moment, mais il y a après, quand on revient dans les collèges et les lycées, rédiger un article qui est ensuite publié sur le site et parfois publié dans des petites revues.
Ah, quand même. Oui, donc il y a tout un travail de valorisation qui, finalement, il est aussi important que le travail de recherche, le travail de valorisation,
oui.
J'ai envie
oui,
de dire.
Oui.
Et du coup, c'est les élèves qui font leur propre article?
C'est des élèves qui font leur propre article. Alors, on les aide, parce que l'écrit, c'est quand même... ça devient, enfin, là, vraiment, il faut que ce soit... carré, donc on les aide, mais le support qu'ils ont utilisé déjà pour la présentation orale les aide beaucoup.
Du coup, ils font un travail de journaliste, en fait.
De chercheur.
Aussi.
Ah, quelle est la différence entre la recherche et le journalisme?
Mais vous trouvez plus souvent que les chercheurs. Hein. Philippe n'est pas là, on peut le dire.
Eh bien, c'est noté. Oui, et donc, dans 30 ans, en effet, où est-ce qu'on en sera?
Alors, ce n'est pas moi que vous inviterez, ça sera mes élèves qui seront devenus chercheurs, enseignants ou présidents de ma tangine.
Et en termes d'image des mathématiques auprès des publics scolaires, est-ce qu'on aura enfin réussi à démystifier et faire aimer les mathématiques ou est-ce qu'on aura encore des difficultés comme aujourd'hui?
Non, on aura tout surmonté.
On aura tout surmonté.
Autant de femmes que d'hommes qui feront des maths.
Ouais.
Autant de chercheuses que de chercheurs. Non, ce sera un monde idéal dans 30 ans.
Et puis, dans les couloirs des collèges, des lycées, des universités, on entendra « j'ai hâte d'aller au cours de maths ».
Chouette.
Merci beaucoup en tout cas, Caroline Rougerie, d'avoir été avec nous sur Radio Campus Orléans. On continue en musique avec Heavyweight de Kitashi dans la science infuse. Restez avec nous, on continuera notre découverte des doctorants et des doctorantes et de leur projet de thèse sur Radio Campus Orléans. C'est dans quelques minutes. Heavyweight de Kitashi. On va également parler de poids lourd, en tout cas de voiture, dans quelques instants. Dans la science infuse, on est ensemble jusqu'à 15h et on continue, comme chaque semaine, notre incursion auprès des doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans qui travaillent sur leur sujet de recherche et qui le vulgarisent pour vous, chers auditeurs et auditrices, au travers d'une série de podcasts. Aujourd'hui, on va rencontrer deux doctorants et doctorantes, Marine tout à l'heure, mais tout de suite Marin, qui lui va nous parler justement d'automobile et du futur du transport individuel.
Les voitures électriques ne sont pas l'avenir, ce sont les voitures hydrogène. J'ai entendu aux informations qu'il y avait des bus à hydrogène. Pourquoi on n'en voit pas encore sur des voitures personnelles? Vous avez probablement déjà entendu ces affirmations, vous les avez même peut-être dites. Je dois vous faire une confidence, je me suis déjà posé ces questions. Mais, depuis que je me suis renseigné sur ces sujets, j'ai découvert ce qui me passionne aujourd'hui et c'est devenu mon métier. Je m'appelle Marin Poujol, je suis doctorant au laboratoire Prism à l'Université d'Orléans et je vais vous raconter mon sujet de thèse en vous embarquant dans le potentiel futur de l'automobile. Bonjour Hassan, comment vas-tu ?
Bonjour Marin, je vais très bien. Oui, alors l'hydrogène, j'en entends parler tout le temps. C'est vraiment l'avenir ?
Et oui, ça en fait partie de l'avenir. Mais là où je veux en revenir, c'est différencier un véhicule électrique et un véhicule hydrogène. Il est important de comprendre que ce qu'on appelle aujourd'hui voiture hydrogène, eh ben, c'est des voitures électriques. Ces véhicules possèdent une batterie et les roues tournent grâce à un moteur électrique, comme une voiture télécommandée high-tech. Mais vous devez le savoir, le désavantage des voitures électriques est leur manque d'autonomie. C'est-à-dire que l'autonomie d'un SUV électrique se situe autour des 300-400 km, alors qu'un véhicule avec un moteur diesel peut atteindre plus de 1000 km.
Mais alors pourquoi s'embêter avec une voiture électrique si le diesel existe ?
C'est une question légitime. Tout simplement parce que le moteur diesel, comme le moteur essence, rejette des polluants qui détruisent notre planète en la réchauffant. C'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Mais pour lutter contre ce fléau, des constructeurs automobiles s'orientent vers de nouvelles technologies. Déjà bien installée dans notre société, la voiture électrique est un excellent exemple de véhicule qui n'émet pas de polluants. Mais que faire pour pallier ce manque d'autonomie ? Une plus grosse batterie ? Non, pas possible. Les gains en autonomie ne seraient pas assez significatifs pour le volume que cela prend. Recharger notre batterie en roulant ? Eh bien, pourquoi pas ? Imaginez, c'est comme une lampe dynamo où l'on tournerait la manivelle pendant que cette même lampe nous éclaire. Les systèmes permettant d'améliorer l'autonomie d'un véhicule sont appelés prolongateurs d'autonomie. Dans le cas de nos bus, c'est un prolongateur d'autonomie à base d'hydrogène. C'est pour ça qu'on appelle ça un bus à hydrogène.
D'accord, je comprends mieux. Mais pourquoi nous utilisons de l'hydrogène ?
Parce que l'hydrogène a une forte capacité à stocker l'énergie. Mais aussi, son utilisation est extrêmement propre. C'est-à-dire que nous rejetons que de l'eau en utilisant l'hydrogène. Ma thèse se concentre sur un prolongateur d'autonomie en particulier que je vais vous décrire. Je vais commencer par vous parler d'un système qui transforme l'hydrogène en électricité qu'on appelle une pile à combustible. Ma pile à combustible s'appelle une SOFC. Elle a la particularité d'être chaude, c'est-à-dire que pour fonctionner correctement, elle doit être à 750 degrés.
Mais donc du coup c'est vraiment trop chaud pour être mis dans une voiture qu'on connaît ?
Eh bien non, parce qu'en fait un moteur diesel ou un moteur essence qu'on croise tous les jours sur nos routes fonctionne à plus de 1000 degrés. Donc finalement, ma SOFC n'est pas si chaude que ça pour un véhicule. Donc, je vous invite à retenir trois particularités de ces SOFC. Elles transforment l'hydrogène en électricité, elles rejettent des gaz chauds et elles n'utilisent pas toutes les molécules d'hydrogène qu'on insère. Très particulier comme comportement, n'est-ce pas ? C'est comme offrir 20 cadeaux à un enfant et il va jouer uniquement avec deux, ce qui a tendance à agacer les parents. Mais moi, je suis un papa content de ça, parce que l'hydrogène qui n'est pas consommé a aussi deux particularités. Il a plein d'énergie et il est chaud. À peu près la température de la pile, 750 degrés. Je vais donc pouvoir rebrûler cet hydrogène restant pour obtenir un gaz encore plus chaud.
Donc un gaz encore plus chaud, et pourquoi ?
Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous pouvons transformer des gaz chauds en électricité. En effet, c'est comme ça que fonctionnent nos centrales nucléaires. On utilise de la vapeur d'eau très chaude qu'on vient placer sous une turbine qui va tourner, et en tournant, elle va créer de l'électricité grâce à un alternateur. Dans notre cas, au lieu d'avoir une réaction nucléaire qui chauffe, on a ma SOFC, plus la combustion de l'hydrogène restant. Ainsi, nous avons un système qui a trois éléments qui permettent de produire de l'électricité. Ma SOFC, ma turbine et une batterie électrique. Pour que tout soit bien clair, je vais vous expliquer la différence entre une pile à combustible et une batterie électrique. Voyez la batterie électrique comme un réservoir d'électricité. On est capable de la remplir et de la vider. Tandis que la pile à combustible, SOFC, permet de transformer des molécules d'hydrogène en électricité. La batterie électrique est un des éléments qui va permettre de mettre en place des stratégies de gestion d'énergie. Parce que je ne vous l'ai pas dit au début, mais je suis un grand stratège passionné de mathématiques. Et ce que j'aime particulièrement faire, c'est trouver des stratégies pour contrôler des systèmes. Je vous explique. Mon réel carburant du système sera l'hydrogène. C'est l'élément que je vais payer à la pompe. Cependant, j'ai trois éléments qui peuvent alimenter mon moteur électrique. Il reste maintenant à savoir comment les utiliser. Je t'emmène voir les cigales, Hassan ?
Volontiers.
Allez, imaginons le trajet Paris-Marseille. La batterie n'est pas suffisamment grande pour faire tout le trajet. Je vais donc faire chauffer ma SOFC jusqu'à Auxerre. Étant donné que j'ai roulé, ma batterie s'est vidée. Mais la contrepartie, c'est que ma SOFC est chaude et elle est prête à me donner de l'énergie. Maintenant, deux solutions s'offrent à moi. Soit j'utilise mon prolongateur d'autonomie jusqu'à Marseille. Dans ce cas-là, ma SOFC est active tout le long du trajet et ma batterie restera vide. C'est une possibilité. Mais comme je te l'ai déjà dit, j'aime la stratégie. Et je pense qu'on peut trouver quelque chose de plus malin. Donc, à partir d'Auxerre, je vais utiliser ma SOFC et ma turbine pour à la fois faire avancer le véhicule et recharger ma batterie.
C'est vraiment possible ça, Marin ?
Oui, bien sûr, on peut recharger et faire avancer le véhicule. Et la seule condition, c'est de rajouter un peu plus d'hydrogène à mon système, mais pas beaucoup plus. Mais donc, écoutez bien la suite. Je viens de passer Auxerre, je recharge ma batterie, cela dure jusqu'à Chalon-sur-Saône, on va dire. Et à Chalon-sur-Saône, ma batterie électrique est pleine. Je peux donc couper ma SOFC. Ce qui veut dire que je ne vais plus consommer d'hydrogène et me servir de ma batterie électrique pour faire avancer mon véhicule. En plus, ma SOFC est toujours chaude. Et c'est là le paramètre clé de l'optimisation. Ma SOFC ne consomme plus d'hydrogène, mais sa chaleur est encore utilisable dans la turbine. Donc, assistée par la turbine, ma batterie ne va pas se vider rapidement. Cela veut dire que je vais pouvoir rouler de Chalon jusqu'à Valence sans utiliser d'hydrogène. Comme si vous coupiez votre moteur diesel de Chalon à Valence. Ou alors, c'est comme pédaler fort sur un vélo pendant quelques mètres pour se laisser rouler le temps qu'on peut. Puis à Valence, je rallume ma SOFC pour arriver jusqu'à Marseille. Et c'est celle-là la meilleure stratégie. Il est donc préférable d'utiliser plus d'hydrogène en instantané pour pouvoir couper mon système sur une longue durée.
On est bien d'accord, hein, tout le monde ne fait pas Paris-Marseille tous les jours. Qu'en est-il sur les d'autres trajets ?
C'est vrai, et c'est ici que les mathématiques rentrent en jeu. L'objectif étant de développer des méthodes qui soient capables, pour n'importe quel trajet, de vous donner la meilleure solution. C'est-à-dire que grâce à des outils mathématiques, je vais pouvoir chercher quelle stratégie de gestion de mes trois éléments va me permettre de consommer le moins d'hydrogène sur n'importe quel trajet. Pour m'aider dans mes simulations, je vais utiliser ce qu'on appelle un banc d'essai. C'est-à-dire que je vais avoir une SOFC sur laquelle je vais pouvoir tester plein de paramètres. Ce système semble si beau, n'est-ce pas ? Mais il a de grandes problématiques. Il ne faut pas abîmer la SOFC en ayant des changements de température trop brusques. Il faut s'assurer d'avoir un débit suffisant dans la turbine. La batterie électrique ne doit pas chauffer non plus. Toutes ces questions sont omniprésentes autour de ma thèse et nous devons tout le temps nous y référer. Aujourd'hui, étant en deuxième année, je m'attends à différents résultats de ma thèse. Un des premiers résultats serait d'avoir un dimensionnement de tous mes éléments. Quelle taille de batterie, quelle taille de prolongateur d'autonomie, etc., etc. Un autre résultat pourrait simplement être que mon système est nul. Enfin, non, pas nul, mais du moins pas utilisable pour le monde automobile.
Tu ne serais pas déçu par cette conclusion ?
Ben non, ça fait partie de la recherche. C'est tout à fait possible de trouver que mon système ne sert à rien. Et je pense même que certains ingénieurs pourraient te dire qu'ils préféreraient montrer que quelque chose ne fonctionne pas plutôt que d'encore avoir des doutes sur un potentiel système qui finalement ne marchera pas. Mais aujourd'hui, Hassan, est-ce que tu veux savoir ce que j'aime dans la vie et que je retrouve dans mon sujet de thèse ? J'aime quand on construit un système en assemblant plusieurs autres petits systèmes, en prenant en compte que chaque système a ses défauts et ses qualités. Je vais prendre l'exemple d'un duo de pétanque maintenant qu'on est à Marseille. Pour faire un bon duo de pétanque, il est intéressant d'avoir un bon tireur et un bon pointeur, plutôt que uniquement avoir deux bons tireurs qui finalement ne se complètent pas dans le jeu. Il en est pareil pour mon véhicule. Ma batterie est capable d'être utilisée très rapidement, mais pas très longtemps. Ma SOFC peut fournir beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie qui me coûte cher. Ma turbine, quant à elle, me permet d'obtenir de l'énergie perdue de ma SOFC. En faisant fonctionner ensemble ma batterie, ma SOFC et ma turbine, nous pouvons tirer les avantages des trois éléments. Donc je te propose de trouver les meilleures stratégies et devenons la meilleure équipe de pétanque.
Eh bien oui, j'adorerais. Est-ce qu'il faut être un bon joueur de pétanque pour travailler dans ton domaine?
Non, mais disons qu'entre midi et deux avec les collègues, c'est toujours bon d'être bon à la pétanque. Merci Hassan.
Merci à toi Marin.
Voilà, ce premier épisode que je vous souhaite... Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes toujours sur Radio Campus dans La Science Infuse. Oui, ce premier épisode que je vous propose d'écouter cet après-midi dans La Science Infuse, c'était donc Marin Pujol. Lui, il est donc étudiant doctorant au laboratoire Prism et il nous parlait donc d'automobile. On va continuer avec une autre doctorante, c'est Marine Zimé. Elle parle de droit privé et notamment de la transparence du droit du travail.
Je suis doctorante dans un laboratoire de recherche. Vous imaginez probablement un laboratoire avec des fioles partout, des blouses blanches, des savants un peu fous, les cheveux en pétard façon Einstein. Sauf que je suis doctorante en droit. Oui, oui, vous avez bien entendu. De la recherche. En droit. Dans un laboratoire. Le centre de recherche juridique Potier de l'Université d'Orléans. Vous voyez peut-être maintenant Einstein avec un code civil dans les mains et vous demandez ce qu'il peut bien faire dans un laboratoire. C'est qu'en réalité, mon laboratoire, c'est pas un labo comme en physique-chimie. C'est pas un endroit dans lequel il y a des machines. Faut plutôt voir ça comme une équipe de chercheuses et de chercheurs. Et la recherche ne consiste pas à agiter des tubes à essai. Elle consiste plutôt à étudier des textes, c'est-à-dire la loi, les décisions de justice, les écrits de professeurs. Et le but du jeu, c'est de lire un maximum de textes sur son sujet pour pouvoir répondre de manière argumentée à une question. Bon, dit comme ça, c'est sûr que ça paraît un peu moins fun que les expériences en chimie. D'autant que moi, je vais pas trouver un médicament pour sauver l'humanité. Non, mon objectif, il est plus petit. Il s'agit de comprendre ce que veut dire la transparence en droit, et notamment en droit du travail. L'intérêt de mon sujet est donc surtout théorique, je vais pas révolutionner le monde. Mais quand même, ma thèse ne sert pas à rien. En droit, les définitions, elles sont hyper importantes. Par exemple, mamie vous demande de tondre la pelouse à sa place.
Et dis-moi, tant que tu y es, est-ce que tu pourras aussi balayer la terrasse?
À la fin de la journée, elle vous donne 50 euros.
Ah, c'est bien gentil ça. Tiens, tu t'achèteras une glace avec ça.
Oui, parce que c'est ce que me dit ma grand-mère quand elle me donne de l'argent. Si cette situation correspond à la définition d'un contrat de travail, alors vous voilà devenu le salarié de mamie. Elle vous doit un salaire, au moins le SMIC, et si elle veut se passer de vos services, parce que...
Heureusement que je n'ai pas mis mes lunettes, parce que le promener, franchement, faut pas le regarder trop près.
Dans ce cas-là, elle doit vous licencier. Si en revanche, ce n'est pas un contrat de travail, elle n'est pas obligée de vous payer, et elle peut demander à votre cousin de faire le boulot à votre place du jour au lendemain.
Je demanderai à Hugo. Bon, lui, au moins, il passe bien au bord du pommier.
Bref, tout ça pour dire qu'à une notion bien définie, ici le contrat de travail, correspond à un régime juridique, c'est-à-dire un ensemble de règles particulières qui vont s'appliquer, ici le SMIC et les règles du licenciement notamment. Bon, assez parlé de mamie.
Oh.
Revenons à ma thèse. Quand j'ai dit à Odile Levanier-Gouel, qui est mon encadrante, que je voulais faire une thèse, elle m'a proposé de travailler sur la transparence en droit du travail. La transparence, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par transparence, je lui ai demandé. Et elle m'a répondu, je sais pas, et c'est bien ça l'intérêt. Intriguant. Le problème, vous l'aurez compris, c'est qu'on sait pas vraiment ce que ça veut dire, transparence en droit. J'ai lu des centaines de textes pour en être sûr, et il n'y a pas de définition générale de la transparence. Du coup, la plupart du temps, on utilise le terme comme dans la vie de tous les jours. La transparence, c'est avoir accès à des informations claires qu'on peut facilement comprendre. C'est avoir le droit de savoir combien de marge prend Leclerc lorsqu'il vend son litre de lait 1 euro et combien touche l'agriculteur. C'est encore connaître le patrimoine d'un ministre, savoir s'il a une maison à l'île Maurice ou s'il roule en Twingo par exemple. Bref, comme on ne sait pas ce que ça veut dire la transparence, pas exactement en tout cas, on l'assimile à une simple information. en soi, c'est pas particulièrement gênant. On pourrait très bien dire que la transparence, c'est la même chose que l'information, et appliquer les mêmes règles. Mais ce qui étonne, c'est qu'en droit du travail, il y a plein d'informations. Là, vous pensez à votre boulot et vous dites que pour une soi-disant experte en droit du travail, je raconte n'importe quoi parce que vous, des infos, votre employeur ne vous en donne pas beaucoup. Mais je vous assure, en théorie au moins, l'employeur doit donner plein d'informations aux salariés. Enfin, surtout aux représentants des salariés. Il doit par exemple informer les représentants du personnel sur la situation économique et financière de l'entreprise, sur les risques au travail, etc. Donc plein d'informations, et pourtant, on ne parle pas beaucoup de transparence en droit du travail. Mais si transparence et information ne font qu'une, on devrait croiser le terme de transparence plus souvent. C'est curieux, non ? J'ai donc cherché ce qui différencie la transparence et l'information. Comme on ne croise pas souvent la transparence en droit du travail, j'ai dû chercher plus largement en droit, dans des contrées qui me sont plus obscures, le droit de la concurrence, le droit administratif. Il a fallu que je décortique, que j'interprète les textes, que j'observe comment la transparence elle est perçue ici ou là. Et voici ma conclusion. Entre transparence et information, la différence tient surtout au point de vue que l'on adopte. Lorsqu'on parle d'information, le but c'est d'inciter le destinataire de l'information à adopter un certain comportement. Avec la transparence, en revanche, le but est à mon sens de réguler le comportement de celui ou celle qui s'expose au regard de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Imaginons par exemple que vous demandiez à votre fille de ranger sa chambre. Vous lui avez demandé 3 fois, sans succès. Première possibilité, vous pouvez alors l'informer que si elle ne range pas immédiatement sa chambre, elle sera privée de console. Cette information du parent vers l'enfant a pour objectif d'agir sur le destinataire, l'enfant. Il s'agit donc d'une information. Seconde possibilité, vous pouvez essayer une approche, on va dire, plus subtile, en obligeant votre fille à montrer sa chambre à mamie.
Non mais c'est quoi ce bazar ici ?
Pour éviter ces remarques, votre fille se décidera peut-être à ranger sa chambre. Pour moi, le fait d'inciter quelqu'un à montrer sa chambre pour l'inciter à la ranger correspond à l'idée de transparence. C'est la même idée finalement lorsqu'on demande à un ministre de déclarer son patrimoine en début et fin de mandat. L'objectif, c'est d'éviter qu'il s'en mette plein les poches sur le dos des contribuables en exposant aux yeux de tout le monde son patrimoine. La transparence est donc un pari. On parie qu'en obligeant quelqu'un à agir aux yeux de tout le monde, cette personne se comportera bien. Youhou, j'ai donc enfin trouvé une différence entre information et transparence. À quoi va-t-elle me servir ? D'abord, à mieux comprendre pourquoi on parle si peu de transparence en droit du travail. Vous rappelez, c'est ce qui m'avait intriguée au départ. Eh bien, c'est parce qu'en droit du travail, on cherche surtout à influencer le destinataire d'une information, généralement le salarié, que le terme d'information y est fréquent. Inversement, on cherche peu à influencer le comportement de celui qui s'expose au regard, le plus souvent l'employeur, d'où le fait que la transparence soit assez rare. Cette découverte permet donc de mieux comprendre l'utilisation des termes. En revanche, elle ne permet pas nécessairement d'assigner des règles spécifiques à la transparence. C'est aussi ça la recherche, explorer des terres inconnues sans être toujours assuré de trouver un trésor. Mais ça permet d'ouvrir une nouvelle piste. Grâce à mes recherches, on comprend mieux ce qu'est la transparence et on peut donc espérer que ça permettra d'améliorer son efficacité. Petit mot de la fin, je tiens à remercier Odile Levanier-Gouel, mon encadrante, ainsi que Clémence Rigbuche qui a prêté sa voix au personnage de mamie. Et bisous à ma grand-mère aussi.
Voilà. Voilà, Marine Zimé, elle est doctorante au CRJP, droit privé à l'Université d'Orléans. Donc son podcast ainsi que les 11 autres des doctorants et doctorants dans ce projet mené avec Radio Campus Orléans et l'école doctorale de l'Université d'Orléans, ça a retrouvé sur orléans.radiocampus.org. Et évidemment, la semaine prochaine, vous aurez l'occasion d'écouter la suite. Mais pour l'heure, musique dans la science infuse, Other Side of the Mirror. De l'autre côté du miroir, c'est un titre de Yoko Sho. Other Side of the Mirror, c'est un titre de Yoko Sho qu'on va laisser en fond, le temps de se dire au revoir Marion et remercier nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés.
Et oui, merci d'avoir été là.
J'adore ce titre, là c'est une belle découverte, je pense qu'il va finir assez rapidement dans ma playlist personnelle. Ce titre est assez fantastique. Alors dans l'actualité de la science infuse, je vous propose d'ores et déjà d'écouter en avant-première, c'est sur notre site orléans.radiocampus.org, un documentaire qui a été réalisé par Félix autour du portrait. Il a rencontré un Ed Dwight, c'est un ancien astronaute américain, afro-américain justement, qui a été confronté au racisme aux États-Unis. Félix l'a rencontré, c'est la toute première fois d'ailleurs que Ed Dwight donne une interview à un média français, donc c'est une grande exclusivité que vous pouvez d'ores et déjà découvrir sur notre site internet. Et tout prochainement dans la science infuse, ça sera tout début novembre qu'on vous proposera de l'écouter sur les ondes. Merci beaucoup.
Eh bien merci à vous. Et merci Erwan.
Mais merci à toi. Merci à nos chers auditeurs d'être toujours au rendez-vous dans La Science Infuse le lundi de 14h à 15h. En FM, en radio numérique terrestre et puis bien évidemment, disponible à l'écoute et à la réécoute sur notre site internet, voilà, c'est merveilleux. À 16h, les archives des 30 ans de Radio Campus, ça continue à l'antenne, donc soyez au rendez-vous et si vous voulez ne rien manquer de l'anniversaire des 30 ans, on se donne rendez-vous un peu partout, voilà. À plus, bel après-midi.